Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, rejoignez-nous, RFI vous donne la parole comme tous les jours, vous allez pouvoir commenter l'actualité. Ce matin, nous lancerons le débat sur la débâcle du camp présidentiel au Sénégal. On se souvient qu'il y a deux ans, un peu plus de deux ans, Macky Sall était élu avec 65% des suffrages. Il avait suscité à l'époque énormément d'espoir, il avait promis la rupture. Eh bien c'est un coup de massue qui s'est abattu ces jours-ci sur le président Macky Sall, puisque les premiers résultats de l'élection, des élections locales marque une défaite pour la mouvance présidentielle, battue dans de nombreuses grandes villes, y compris à Dakar, la capitale, où la première ministre n'a pas réussi à s'imposer. D'ailleurs, la quasi-totalité des ministres ont été battus dans leur fief. Alors, comment expliquez-vous ce vote sanction? L'état de grâce de Macky Sall est-il définitivement terminé? Quels enseignements le président sénégalais et son gouvernement doivent-ils maintenant tirer de ce désaveu? Nous en parlerons évidemment dans une trentaine de minutes. D'ici là, appelez-nous, inscrivez-vous, 33 9 693 693 70 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Je jette un coup d'œil également sur les messages reçus sur la page Facebook de l'émission. Il y a Cissé qui nous dit: l'état de grâce est terminé, on n'a plus de temps à perdre, un carton jaune a été infligé à ce régime, maintenant à eux de décrypter le message, sinon ils seront à la retraite en 2017. Momo pense déjà donc à l'élection présidentielle. En tout cas, on en parlera tous ensemble, évidemment, dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes des RFI. Vous connaissez le principe, ce sont vos questions. Il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous abordons dans nos différents journaux, dans nos différentes éditions. Eh bien, vous nous rejoignez. Et surtout, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. On a besoin de vos questions, évidemment, avant le début de l'émission pour contacter nos spécialistes, nos experts au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Alejandro Valente, chef du service des sports, est déjà installé devant le micro. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Évidemment, si on vous demande de venir, c'est que nous avons des questions sur le sport et sur le football, la Coupe du Monde. Arnaud, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les visiteurs de RFI.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad. On vous écoute.
Oui, Juan, le Ramadan a commencé dans le monde il y a trois jours. Les footballeurs musulmans participant au Mondial du Brésil y sont concernés. Alors Juan, j'aimerais savoir quelles sont les décisions prises par ces joueurs. Est-il permis aux sportifs professionnels de rompre le jeûne pendant la compétition? Et enfin, les autorités musulmanes se sont-elles prononcées sur ce sujet?
Alors, comment concilier Ramadan et match de haut niveau? C'est vrai que c'est une vraie question, Alejandro Valente. Depuis le week-end dernier, les joueurs musulmans dont les équipes sont qualifiées sont effectivement confrontés à un dilemme. Faut-il observer le Ramadan ou s'en passer pendant la Coupe du Monde? Alors, on va pas s'arrêter sur chaque cas, sur chaque joueur concerné, mais quelle est la tendance générale aujourd'hui? Est-ce qu'on a des informations?
La tendance, évidemment, compte tenu des conditions climatiques au Brésil, on imagine mal un joueur pratiquant le jeûne pouvant participer à la Coupe du Monde, ça paraît inimaginable. Donc évidemment, les joueurs, certains en parlent, la plupart n'en parlent pas, mais ils ont la possibilité, d'après ce que j'ai compris, d'invoquer le fait qu'ils sont en voyage pour reporter le jeûne et pouvoir le réaliser plus tard. Alors, on s'était beaucoup focalisé sur l'équipe d'Algérie qui a joué contre l'Allemagne il y a quelques jours. Et l'entraîneur de cette équipe, Vahid Ali Lodzic, avait critiquer les journalistes qui voulaient poser des questions sur le sujet, estimant que c'était des questions personnelles, et il avait recommandé aux joueurs de ne pas en parler, ce que la plupart avaient fait.
Mais ce qu'on sait, c'est que justement l'équipe algérienne avait quand même engagé un médecin reconnu d'ailleurs par la Fédération internationale de football, la FIFA, pour justement être un spécialiste sur les questions du jeûne chez chez les footballeurs.
Exactement, ils avaient assisté les joueurs et les avaient aider, disons, à gérer ce problème. Là, l'Algérie étant éliminée, les équipes qui restent n'ont pas pour beaucoup de musulmans dans leur rang, mais il y en a quand même. En équipe de France, il y a 5 joueurs qui sont concernés: Sako, Sagna, Benzema, Sissoko et Pogba. Alors, le seul qui en a véritablement parlé, c'est Sagna, en disant que lui, il n'allait pas observer les jeunes pendant la Coupe du Monde.
Il a dit, si on le fait, il faut assumer et être prêt, surtout ne pas avoir de carence, car à ce niveau-là, ça ne pardonne pas.
Évidemment, on peut imaginer facilement. Bon, après, l'Allemagne est à peu près dans le même cas, puisqu'il y a trois joueurs concernés également. Mais bon, de toute façon...
Ozil s'est exprimé là-dessus, et oui. Il a dit que lui, il n'allait pas observer, il n'observait pas le ramadan pendant le
mondial. Mais la plupart des joueurs préfèrent ne pas en parler, estimant que c'est quelque chose de personnel avec leur conscience et qu'ils n'ont pas à s'exprimer publiquement sur le sujet.
Et Didier Deschamps, lui, a été interrogé, évidemment, par nos confrères sur place en conférence de presse, et il a expliqué qu'il n'avait rien ordonné à ces joueurs de confession musulmane. Ce sont des sujets sensibles, a-t-il dit, délicats, et on respecte la religion de tout le monde, a précisé donc
Bien
Didier
entendu, mais bon,
Deschamps.
On sait bien que les choix des joueurs pour participer au match, après, dépend de leur état des formes et le choix qu'ils feront peut évidemment avoir un impact sur le fait qu'ils soient ou non titularisés pour un match donné.
À signaler quand même qu'au Brésil, le soleil se couche relativement tôt. Vous étiez encore la semaine dernière.
Les matchs se jouent tôt aussi.
Les matchs se jouent tôt, effectivement, à partir de
la France et l'Allemagne vont jouer à 13h heure locale. Donc c'est une heure où il fera très chaud à Rio de Janeiro. Et donc, ne pas boire, ça paraît quand même inimaginable.
Effectivement. Alejandro, reste avec nous. Une autre question sur le mondial. Bonjour, Baba.
Bonjour, Juan. Bonjour, Alejandro.
Vous nous appelez de l'Abbé. L'Abbé, c'est en Guinée. Vous avez également des questions sur le mondial, mais plus précisément sur l'arbitrage.
Oui, monsieur Juan.
On vous écoute.
Ma question sont les suivantes. Pourquoi il n'y a pas d'arbitre français au Brésil? Ma deuxième question est la suivante. Sur quels critères s'est basée la FIFA pour sélectionner les arbitres?
Bonne question, effectivement. Je crois que c'est la première fois depuis 1974 qu'il n'y a pas d'arbitre français lors d'une Coupe du Monde de football.
Oui, si vous voulez, il y a un processus, c'est comme un concours, il y a un processus des sélections. Et donc, la dernière étape, il y avait 52 arbitres qui étaient présélectionnés. Il en fallait
52 dans le monde.
Il fallait en retenir 33. Il y avait un français parmi les 52, c'était Stéphane Lannoy.
Le meilleur des arbitres français, faut le dire.
Oui, théoriquement,
oui. Enfin, c'est quand même le meilleur. De
il avait
arbitres.
Déjà été en 2010, il n'avait pas été très brillant, on va dire. Il avait été notamment très critiqué par les Ivoiriens à l'époque. Bon, en tout cas, il n'a pas réussi à passer la dernière étape. Alors, c'est des tests à la fois techniques et à la fois physiques. Donc, des tests d'endurance, évidemment, parce qu'un arbitre court beaucoup.
Court plus que n'importe quel joueur.
Voilà, exactement. Et puis, des tests techniques, donc connaissance du règlement, réaction à certaines situations. Et puis, il y a une évaluation sur leur performance au cours des 12 derniers mois, que ce soit en championnat de chaque pays ou dans les compétitions internationales. Et voilà, Stéphane Lannoy n'a pas réussi à franchir cette étape. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des critères géographiques, c'est-à-dire la FIFA veille à qu'il y ait une répartition à peu près homogène.
Je crois qu'il y a 9 arbitres européens, par exemple.
Il y a 10 arbitres européens
et c'est
voilà,
ça.
C'est le continent le mieux représenté. Les autres continents, en général, en ont 5, sauf l'Amérique du Sud qui en a 6 et l'Océanie qui en a 2. Et il faut dire que tous ces arbitres, les 33, n'ont pas tous été traités de la même manière. Il y a 7 arbitres qui n'ont arbitré aucun match, malgré le fait d'avoir été sélectionnés. Parmi eux, le seul français, entre guillemets, puisqu'il y a un Tahitien qui représente l'Océanie, c'est Norbert Ahuata.
Ah oui, il a un passeport français, oui.
Il a un passeport français, mais il n'a pas été choisi pour arbitrer le moindre match, alors que d'autres en sont déjà à 3. Et évidemment, s'ils n'ont pas arbitré au premier tour, ils n'ont aucune chance d'arbitrer en quart de finale ou en demi-finale. Là, on prend que les meilleurs. Et il y a des arbitres qui ont arbitré un match et ils ont été renvoyés à la maison parce qu'ils ont été mauvais. C'est le cas du Japonais qui avait arbitré les matchs d'ouverture, Yuichi Nishimura, qui avait été trop généreux avec les Brésiliens en accordant un pénalty inexistant.
Carton rouge donc pour l'arbitre japonais.
Donc, voilà, il est rentré.
Mais sérieusement, Alejandro, il y a un vrai malaise dans l'arbitrage français. On est si mauvais que ça?
Bah, disons qu'il y a beaucoup des conflits internes déjà, et c'est vrai que c'est une situation qui n'a pas facilité la La qualité du travail d'équipe. C'est un travail d'équipe quand même, l'arbitrage. Il n'y a pas qu'un arbitre qui doit briller par-dessus les autres. C'est quand même un niveau général. Il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation au sein de la manière de faire fonctionner l'arbitrage français. Beaucoup de KL, des personnes qui n'ont pas facilité un peu le choix. Ouais.
Merci beaucoup Alejandro, on vous retrouve évidemment j'imagine tout à l'heure, Radio Foot International.
Voilà,
avec Igor Strauss comme tous les jours.
On n'arrête pas, je crois que
faut aller jusqu'au
on occupe
bout.
L'antenne
jusqu'au 13 juillet et on compte sur vous et tout le service des sports et nos envoyés spéciaux évidemment qui sont sur place et qui font un magnifique travail. Alejandro, bon courage en tout cas.
Merci beaucoup.
Pour la suite et la fin de cette Coupe du Monde. 33 9 693 693 70, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat du jour. Vos analyses assez critiques, hein, faut le dire, hein, sur les élections locales au Sénégal et ce vote sanction pour le président Macky Sall et son gouvernement. Vous continuez évidemment à nous rejoindre et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler notre adresse électronique appel@actu.rfi.fr. Je lirai quelques-unes de vos réactions dans le courant du débat. Bienvenue est avec nous, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Bonjour, hein, du moins, et bonjour à tous les auditeurs du RFI.
En tout cas, vous nous souhaitez la bienvenue à Porto Novo, vous êtes au Bénin. Vous avez des questions concernant l'assassinat d'Hélène Pastor en France.
Eh bien, oui, justement, concernant cette affaire, le gendre de la milliardaire est passé aux aveux. Bien qu'il soit revenu sur ses aveux, j'aimerais savoir pourquoi il aurait voulu faire assassiner la milliardaire. Voilà la première question.
Alors, on va y répondre avec Sarah Bakalogou, qui est à mes côtés du service France des RFI. Bonjour Sarah.
Bonjour Juan.
Hélène Pastor, richissime héritière monégasque. C'est vrai qu'elle disposait d'un énorme patrimoine immobilier à Monaco. Blessée par balle le 6 mai dernier, elle est décédée, rappelons-le, 3 semaines plus tard. Et effectivement, comme le rappelait Bienvenue à l'instant, le gendre d'Hélène Pastor a été mis en examen la semaine dernière pour complicité d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Quelles étaient ses motivations? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Alors, pendant sa garde à vue, il avait expliqué à la police qu'il avait fait ça pour arrêter les violences qu'exerçait Hélène Pastor sur sa fille Sylvia Pastor. Mais la justice, elle ne croit pas du tout à cette version. Pour les enquêteurs, Wojciech Janowski aurait voulu mettre la main sur la fortune d'Hélène Pastor. Une fortune qui est immense puisque quasiment tout le front de mer de Monaco appartient à cette dynastie. Pour comprendre la raison de ce crime, les enquêteurs ont aussi posé la question à Pascal Doriac. Pascal Doriac-Rouane, c'est le coach sportif du gendre d'Hélène Pastor. Et c'est celui qui aurait organisé le meurtre. Alors ce coach sportif a avancé plusieurs mobiles. Il dit aussi que le gendre a agi par cupidité, attiré par l'argent. Mais pour Pascal Doriac, ce n'est pas la seule raison. Selon lui, le gendre d'Hélène Pastor voulait la tuer depuis longtemps parce qu'il se sentait rejeté par la famille Pastor et surtout par sa belle-mère.
La belle-mère, donc Hélène Pastor. Pascal Doriac, dont vous parliez un instant, donc le coach du gendre, a indiqué aux policiers avoir reçu tout de même 200 000 euros pour organiser le meurtre d'Hélène Pastor. Pourquoi, dans ce cas, Sarah, tuer le chauffeur d'Hélène Pastor?
Eh bien, la réponse est bien aussi de ce même Pascal Doriac. Selon le coach, Wojciech Janowski voulait la mort du chauffeur pour brouiller les pistes. Et c'est vrai que les enquêteurs, au début de l'enquête, se sont demandé qui était la véritable cible.
Ouais, et la justice penche donc pour un mobile financier. Pourtant, le gendre avait de l'argent. Il touchait, je crois, beaucoup d'argent de sa compagne.
Oui, d'ailleurs, il y a une somme qui intrigue les enquêteurs. Sylvia Pastor, la fille d'Hélène, avait versé à son compagnon 7,5 millions d'euros. Et tout cet argent, eh bien, il a disparu des comptes de Wojciech Janowski. Alors, où sont passés ces millions d'euros? C'est une autre question à laquelle les enquêteurs vont devoir répondre.
Voilà, à suivre. Vous avez une autre question, bienvenue.
Bien sûr, Juan. Les deux assassins sont d'origine comorienne. Et je voudrais bien savoir s'ils appartiennent à un réseau.
Ah, est-ce qu'ils appartiennent à un réseau? Que sait-on, Sarah?
Alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'ils viennent des cités marseillaises, qui sont déjà connues des services de police. Aler Hamadi, le guetteur, a fait 4 ans de prison pour une série d'agressions. C'était en 2003, il y a un peu plus de 10 ans. Le tireur, lui, Samine Saïd Ahmed, a aussi fait de la prison pour détention de stupéfiants et vol avec violence aggravée. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les deux hommes ne sont pas des grands professionnels, ils n'ont pas pris beaucoup de précautions. Rappelez-vous, le 6 mai dernier, le jour de l'assassinat, ils quittent Marseille en train pour aller à Nice. Là-bas, ils réservent une chambre d'hôtel, ils prennent une douche, et c'est sur le flacon du gel douche que les enquêteurs vont retrouver l'ADN du tireur.
Oui, la suite de leur parcours est encore moins discrète.
Oui, puisque pour arriver devant l'hôpital où se rend Hélène Pastor pour tendre leur guet-apens, les deux hommes prennent un taxi, puis un autre pour repartir à Marseille. Tout ça, le visage découvert, entièrement filmé par les caméras de surveillance. Ils ont aussi allumé leur téléphone, ce qui a permis à la police de les géolocaliser. En tout cas, pour cet assassinat, le tireur et le guetteur ont reçu chacun 30 000 euros. Et Wojciech Janowski, vous le disiez, aurait dépensé 200 000 euros en tout.
Merci beaucoup Sarah Bakalogou d'être venue pour la première, c'est une première pour vous de venir dans ce studio répondre aux auditeurs. Vous voyez, ça s'est très bien passé.
Oui, tout va bien.
Bonne journée et à très vite, je l'espère. Piotr Mosinski du Service Europe est juste à vos côtés. Bonjour Piotr.
Bonjour Juan, bonjour
à tous. On a des questions, on vous a demandé de venir puisqu'on a des questions concernant le nouveau président de la Commission européenne. Samba, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en Casamance, dans le sud du Sénégal. On vous écoute.
Tout à fait. Pourquoi est-ce que David Cameron s'est opposé à la candidature de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? Avec cette opposition, David Cameron s'est mis beaucoup de pays à dos. Quel impact cela va avoir sur les relations entre la Grande-Bretagne et les autres pays de l'Union européenne?
Piotr Mosinski, c'est vrai que le choix de Jean-Claude Juncker ne faisait pas consensus hein, parmi les dirigeants européens. Et c'est vrai que jusqu'au bout, le Premier ministre britannique s'est fermement opposé à sa nomination. Pourquoi? Que lui reproche Cameron exactement?
Pour plusieurs raisons très diverses. D'abord, politique. Jean-Claude Juncker est à des années-lumière de David Cameron, aussi bien quand il s'agit de ses orientations politiques que de sa conception de l'Union européenne. Juncker est qualifié de chrétien social. Il est habitué des coalitions avec les socialistes, avec lesquels il a quasiment toujours gouverné, en faisant toujours preuve d'un grand art de la négociation et du compromis. L'ancien ministre français de l'économie, Pierre Moscovici, le présente comme la synthèse entre une droite sociale et la gauche social-démocrate. Profil insupportable pour David Cameron, beaucoup plus conservateur et beaucoup plus libéral à la fois.
Ouais, ce qu'on peut dire également, c'est que Jean-Claude Juncker et David Cameron ont une conception diamétralement opposée de l'Europe.
Et oui, et les deux hommes imaginent l'Europe de deux manières non seulement différentes, mais carrément incompatibles. Juncker est un fédéraliste convaincu, de surcroît résolument hostile aux multiples exemptions réclamées régulièrement par les Britanniques. David Cameron se souvient certainement très bien du discours de Juncker devant le Parlement européen en juin 2005, où il a fustigé les intérêts mesquins et sordides dissimulés, selon lui, derrière l'opposition britannique au projet de super-État européen. Discours ressenti à Londres comme une virulente diatribe anti-britannique. Cameron se situe vraiment à l'opposé de la conception européenne de Juncker. Il est très anti-fédéraliste. Il imagine l'Union européenne plutôt comme un espace de coopération exclusivement économique avec aussi peu d'intégration politique que possible.
Oui, et à part ces divergences politiques, y a-t-il d'autres reproches du côté britannique?
Malheureusement, la classe politique et les médias britanniques ont eu souvent recours à des attaques personnelles contre Juncker, parfois vraiment à la limite de l'acceptable. On l'a traité de vieil homme du passé, alors qu'il n'aura que 60 ans cette année. On lui a reproché d'être un fumeur invétéré et d'avoir un penchant coupable pour l'alcool. Certains tabloïds britanniques sont même allés jusqu'à traiter son père, en relais de force dans la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nazi. Cette attaque-là, Juncker l'a vraiment très mal vécu.
Et alors, Samba nous demandait, quel impact sur les relations entre la Grande-Bretagne et les autres pays de l'Union européenne peut avoir l'attitude de David Cameron ces dernières semaines? C'est vrai qu'il s'est mis un certain nombre de pays à dos tout de même.
Oui, mais il ne faut pas s'attendre à des grands bouleversements dans ces relations. La diplomatie intergouvernementale en Europe est très bien huilée et répond à de nombreuses règles qui permettent d'éviter des conflits trop durs, surtout quand il s'agit simplement de choix de personnes. N'oublions pas que David Cameron, en respectant ces règles, a déjà déclaré que malgré toutes les divergences, il entendait travailler normalement avec le nouveau président de la Commission européenne. D'ailleurs, comme les autres États ne voulaient absolument pas que Juncker finisse par avoir systématiquement les Britanniques contre lui pendant tout son mandat, ils ont déjà esquissé, en guise de lot de consolation, quelques concessions aux exigences de Londres dans d'autres domaines que les nominations. Et d'ailleurs, d'autres nominations importantes restent encore à voter, comme la présidence du Conseil européen, par exemple. David Cameron aura donc encore plusieurs occasions de se battre pour que les intérêts des Royaume-Uni soient préservés.
À suivre. En tout cas, merci beaucoup Piotr Moczynski. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain. Restez avec nous dans un instant, ce sera le journal et on revient, c'est promis, dans 10 minutes.